largement sur les situations de l'Union en Israël, de l'Ethnie en Israël, et que dans ce livre, que Dieu révèle son nom à Israël, et c'est pourquoi, comment ça fait la fin de étudier cette question, en lui en disant que le point central du livre, la révélation du nom de Dieu à Israël. À Israël, constitue la nation, et au moment de la prophétie, de retenir la terre. Je vais remarquer dans les prophéties précédentes l'importance de cette discussion entre Moïse et Dieu, qui me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais la révéler, et la manière dont Dieu le répond, et ça aussi, c'est ça qui transpire. Le problème de la révélation du nom de Dieu à ces hommes qui ont déjà reçu leur nom et qui sont les enfants d'Israël. Alors, dans la tradition, nous avons connu le Dieu. Le Dieu, ça veut dire le fait de tout petit pays sur la guerre de Syrie. Je ne sais pas si vous n'avez pas le Dieu, c'est pas la guerre, mais vous n'avez pas le Dieu. Non. Ce que l'on peut mettre en évidence, c'est le changement de sens, l'inversion de sens, au lieu de la tradition, au lieu de ce que l'on en forme, qui indique le retour dans le pays, c'est le livre de la Bible-là. Au contraire, dans la tradition, on a attribué un terme qui veut dire la mort, qui veut dire. Vous comprenez notamment du problème. C'est-à-dire, l'idée est que, en tout cas, l'église qui rentre ce soir, c'est un peu dans l'église. C'est un peu dans l'église. C'est un peu dans l'église. Mais en gros, c'est l'église qui dit le livre de l'homme. Et donc, la lecture de Genevard, le terme Genevard du livre de l'homme, pose la question suivante. Que nous enseigne la Torah à propos du problème suivant, quel est l'objectif de la pathologie? Et de mon goût, de diviser aujourd'hui sur cette question, il y a le reconnaissant de même, bien qu'il y ait cette division, c'est la réponse à donner à la question. Et première attitude, ce qui se fait à dire, l'objectif de la catégorie, c'est d'aller au final, recevoir la question. Et ensuite, d'aller la pratiquer à ce qui nous intéresse. Vous avez dit l'idéologie coraïque, ça demande des temps français, c'est beaucoup de tendances qui de la décision de la décision de la décision. Ça, c'est la première chose. Je l'appellerai Zalouki. À l'autre partie de lui, mais pourquoi pour aller au final de recevoir la Torah et ensuite on va la pratiquer dans l'enseignement. Je pense que c'est aussi qu'on pourrait plus systématiquement, de façon à ce qu'il faut déduire, définir la position de l'idéologie de l'optimal par rapport aux réutilisations d'une bonne partie. Du catégorie de Saint-Antoine. Parce que de voiler de notre part, c'est lui qui parle. Pendant 2000 ans, c'était un problème qui était un peu caché, un problème qui était un peu différé. Et ce problème s'est dévoilé lorsque l'occasion de la deuxième attitude est arrivée et dévoile qu'il y a du lien qui est lié, qu'il y a un problème qui est lié. La deuxième attitude, nous allons la lire dans le texte, c'est que l'objectif de la catégorie, c'est que la frontière est commune ou à gauche, de donner à la nation d'Israël d'avoir la fin de l'Église et la terre d'Israël. C'est ça le récit de la partie de l'Église, c'est de rejoindre la terre d'Israël. C'est ça donc la question, c'est de la place de la révélation de la terre d'Israël dans cette deuxième partie. Je vais très brièvement, nous allons voir plus souvent de ça. Il y a des raisons très bien sciences qu'il fallait faire un détour de guerre pour recevoir la terre entre ces deux moments, la partie de l'Église, l'entrée en Europe. Et il y a des raisons qui sont que la Torah nous dit de la vente dans ce livre qui font que c'est de vivre à durer 40 ans. Plus grave que cela, c'est la génération de la partie de l'Église qui est rentrée dans le désert, parce que la génération de leurs enfants qui est rentrée en Europe d'Israël, qui avait une sorte de conflit dans le projet initial qui est descendu, et que nous allons relire très rapidement dans ce texte. Parce que la définition de ce qui est marqué, donc je reprends deux phrases, première attitude, l'objectif de la catégorie, c'est d'aller au final de recevoir la Torah. Et ensuite, l'importance de pratiquer la Torah, du quotidien. Et le Israël, eh bien, c'est là qu'arrive la plaie en attendant le Messie. Le deuxième là, deuxième attitude, l'objectif de la catégorie, c'est d'aller en Israël. Et pour les raisons qu'on va établir, il a fallu passer au final de recevoir la Torah, alors que normalement, a priori, la Torah aurait dû être aussi en Israël. Dans le verset de l'humanité, si tu es, etc., il y a un verset de l'Israël, et ce verset ne dit pas, il y a une image, etc. C'est vrai que c'est vrai. C'est vraiment tout le monde. Alors voilà, le premier verset de la parenthèse de Salam, à partir de la solution, je vais très rapidement en cabinet du gouvernement. On a dit, le terrain apparaît au parable, et il arrivera lorsque le Pharaon fut renvoyé au peuple, du moment de l'Israël. Le Lonaha me le dit, Dieu ne veut pas diriger son lit, Lonaha Otam, je referai ce lit, par le chemin qui s'appelle le chemin du pays de Philippe et le chemin de la côte. C'est pas qu'il arrive de suivre la télévision le soir, c'est pas. Avant l'information, avant il y avait ce lieu, il y a maintenant aussi qui peut être ma côte, et c'est une colonne du Sophie. Et alors, un des jours derniers, le temps de la semaine dernière, on a vu la même chose que c'était de l'électricité, c'est le chemin de la côte, qui va directement de l'île au pays de l'Israël, mais qui directement. La vie est en l'hôpital, je donne à Samuel aussi de l'électricité. Et Dieu ne nous a pas dirigé par le chemin du pays de Philippiens, qui est le territoire de Gaza, qui est Philippien, et puis le contrat qu'il y avait après la colonne, qui était déjà le contrat Philippien à l'époque, c'est le chemin de la paix. Nous savons le jour, car il était le propre, propre. Et je vais d'abord traduire bien que ce soit le chemin le plus proche, mais précisément parce qu'il était propre, c'est que la transition entre les rues et l'installation dans les pays aurait été trop rapide, et c'est ce qui est écrit par la suite, qui en a reçu, Xavier a dit, que Nakumaham dirait à Nakama, le peur que le peuple me regrette en voyant la guerre, je savais Nakaina et le référendum. Et le livre explique à deux niveaux, parce que, un, le peur que le peuple me regrette la sortie de vie en voyant la guerre, on nous explique d'abord que pendant toute cette stratégie, il y avait des guerres dans le pays. Parce qu'en voyant qu'il y avait des guerres dans le pays, il ne voulait pas entrer dans ce problème. C'est un peu analogue à ce que nous avons été vivants, qui nous avons été réduits. Et puis, il aurait été dans le pays. C'est-à-dire, regardez-vous que c'est déjà la difficulté de l'accomplissement des promesses, et qu'il ne regrette et qu'il ne retourne dans le pays. Les deux erreurs de l'hydratine de la maintenant, c'est de faire qu'ils ne s'aperçoivent lorsque le nom qui sert à eux de faire la guerre et renonce au régime. C'est ce qu'ils ont fait à tout faire. Alors, on se dit, il y a ce que l'hydratine est à un délai comme ça, et Dieu continue de faire par le chemin du désert, bien sûr, du désert de la magie, la hamiti à l'ouvrir Israël, mais aussi Israël. Et c'est un ordre de bataille armé du documentaire en Amoussi, et c'est le chat, hein, Amoussi, c'est le terme de l'Espagne en anglais. Littéralement, c'est un rempartant qui était l'ordre de bataille. Alors que le chat, c'est Amoussi, avec une fille qui m'a dit en Europe, le chat, il y a eu des parties du documentaire, le chat pour l'histoire de chat, le rempartant, c'était par ordre de chat. Armés, que le même Israël sont sortis du pays de l'Égypte. Très rapidement, ils sont publiés du pays de l'Égypte, de l'Égypte, de l'Égypte, de l'Égypte, mais en fait, dans un affaire qui le fait, et pour ça, dans la conclusion de ces trois versets de l'Égypte, on nous dit que le même Israël était armé en ordre de bataille. Vous comprenez la différence. Comme je m'en suis de ce pas, je voudrais revenir sur l'image, il y avait dans le peuple d'Israël deux parties, ce que le peuple s'appelle le même Israël. C'est-à-dire les descendants de celui, les descendants de l'Église, et ce que le peuple s'appelle Aram, le peuple en général, c'est l'ensemble des hommes qui n'étaient pas originaires d'Israël, mais qui avaient été dans la même situation de vie d'Israël, et qui ont rejoint Israël, donc qui rejoint l'histoire d'Israël. Donc c'est de lui. La différence, et nous allons apprendre dans une des figures suivantes, la partie de Kibbutz, il y a un problème important, peut-être, que les différents des deux ensembles de population qui norment l'ensemble d'Israël à la sortie de vie, encore une fois, le même Israël, le descendant de celui, le Ram, c'est la grande foule de tous ceux qui avaient suivi le même chef d'Israël en Égypte, et qui lui ont été délivrés de la même délivrance d'Israël, qui ont voulu rejoindre l'Israël d'Israël. Ça joue un rôle dans ce qu'on appelle la sortie de vie de la civilisation plus tard. Mais la grande différence entre ces deux, l'éducation de 6 générations qui vont d'Abraham à Moïse. Et Dieu n'en veut pas une seule histoire hébraïque dans leur histoire propre. Par conséquent, on était pas seulement concerné par les promesses de l'Église d'Israël. Ce qui les concernait surtout, c'était la sortie de l'Église. À la rigueur, ils ont fini par accepter la Torah. Mais la promesse que le projet de la sortie de l'Église concernait l'Église d'Israël ne le touchait pas vraiment. Par définition, ce qui n'était pas originaire du peuple de descendants de Abraham, parce qu'ils se connaissent avec le peuple. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce brûlé? Ce qui pourrait se dire, c'est ça, il y a deux expressions différentes dans le. C'est-à-dire la résistance de cette génération de la sortie de l'Église à rejoindre l'Église d'Israël, ne vient pas tellement de l'Église d'Israël, mais de l'influence que cette âme a eue de l'Église d'Israël. En ce matisant, et nous rejoignons les prochains de l'État, sortie de l'Église sera d'accord à la rigueur. L'Église d'Israël s'en fait accepter. Ça concerne les Israéliens, c'est-à-dire les descendants de l'Église. Alors, il ne faut pas dire, parce que je n'ai pas dit, que le juif qui vient en Israël, c'est la RSA. D'autant plus que ce juif qui vient en Israël dit précisément le contraire, que ce qui vient en Israël, c'est la RSA. C'est le contraire du juif. On va dire que l'analyse du problème. Alors, c'est là que pose la question. On nous a dit clairement la raison pour laquelle. Peut-être ne pas aller directement de l'Égypte en Israël, mais par le chemin le plus proche que le chemin de la côte, pour une allusion au début du livre de l'Église, que ça veut durer seulement 11 jours de marche, Ahad, la forêt, et la famille, une espèce de retard de 40 ans de ce détour par le désert. Et la raison la plus importante qu'on a changé, si on connaît la suite du récit, c'est cette idée. Est-ce qu'il ne fallait pas passer par le Sinaï? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu n'a pas fait rentrer le peuple directement en Égypte Israël, mais n'a fait passer par le Sinaï? Mais n'a fait passer par le désert, où on avait rendez-vous au Sinaï. Vous avez entendu ce problème? Alors déjà, nous avons là un texte qui nous donne en évidence que dans le premier projet de la Torah pour la sortie d'Égypte d'Israël, je n'avais pas prévu comme nécessaire cette étape du Sinaï de nécessaire de cette étape pour recevoir la Torah. C'est bien que les raisons souvent qui ont fait qu'il fallait passer par le Sinaï. Plus précisément que c'était une vie. Étant donné que le fait, dans le cas où il était à la sortie de l'Église, j'étais encore prêt à rentrer en Égypte d'Israël, il fallait d'abord qu'il fasse un décision au désert pour recevoir la Torah au Sinaï. Si vous en avez fait ce jour-là, vous avez d'autres textes, et je vous même le chapitre 6 d'Envahéra de l'Église de Pinot, qui indique très clairement le maintien du programme de promesse à accomplir à la sortie de l'Église, et là encore il n'y a pas la ligne, ici, au final. Voilà, apparaît quelque chose d'un peu nouveau, puisque nous n'avons pas encore découvert, parce que nous sommes tellement habitués à cela, que lors des événements de la sortie de l'Église, le final et le Israël, qu'on a un peu. On pourrait être étonné de voir que dans le texte lui-même, l'ordre est tout à fait différent. Et c'est l'ordre du premier projet, du projet premier du diocèse, que la sortie de l'Égypte enregistre dans ce en Israël. C'est encore une fois que des raisons secondaires jouées pour publier les rendez-vous du diocèse. Vous m'intéressez jusque-là? Voilà, je voudrais rattacher ça à une aussi d'un tout autre respect que cela est une chose de rentrer au début de cette analyse. C'est que chaque unité de la Torah a une identité propre. Et nous allons la prendre d'un respect qui fait allusion à l'identité de chacun des livres du Chumash, comme ça il y en a un. Le mot de Chumash ne désigne pas l'ensemble des cinq livres de la Torah. Le mot de Chumash désigne un de lui. Chacun de lui s'appelle un Chumash. Et l'ensemble des cinq livres de la Torah s'appelle Chamisha Chumché Torah. C'est bien clair. On a plus l'habitude de dire le Chumash et de le cinq, mais en réalité, chaque livre est un Chumash. C'est-à-dire un cinquième de l'ensemble. C'est là que se trouve au début du livre de Midrash. Je vous le lis très rapidement. Et nous allons avoir la deuxième suite qui montre bien que l'objectif de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la définition du contenu du livre de Seigneur, est avant tout de construire le Beth Amidrash en avec Israël, et que il y a aussi la vision au Sinaï. Et nous reprenons cet événement tout à l'heure, pour quelle raison il a fallu quand même que l'événement du Sinaï ait lieu, et pourquoi il a fait une telle importance pour la suite.
Mais j'espère vous avoir déjà indiqué, bien que rapidement, que nous avons là un texte qui peut nous servir de référence pour la controverse très grave qu'il y a aujourd'hui dans le peuple juif, et c'est deux attitudes à avoir concernant le problème que veut l'objectif de la sortie de vie. Je pense que c'est bien sûr. Alors, ce texte, je vous dis aussi, c'est le respect. C'est dans le chapitre 6, de 2020. Non, c'est de 2020. Voilà, c'est dans le chapitre 8 du livre de Vénibar, au début de la parasha de Al-Otecha, et c'est le verset 19. Comme vous savez, après la fin du Yoder, la tribu de Lévi a été séparée du reste de celui, et c'est elle qui va être consacrée au premier projet pour Israël, celle qui va nous être rappelée tout à l'heure, quand je citerai ce texte, au pied du Sinaï, et la révélation que Dieu va donner à Moïse avant les 10 commandements, c'est de transmettre le message suivant à Israël, et quant à vous, vous serez une nation de une royauté de prêtres et une nation sainte. Royauté de prêtres, je viens très rapidement, mais c'est l'essentiel. Royauté de prêtres, c'est l'intitulé de la relation d'Israël avec l'ensemble des nations. Et nation sainte, c'est le grand pasteur d'Israël lui-même. Namnefet Kohanim, c'est la relation à l'universel humain. Mais Goy Kadosh, c'est la définition d'Israël pour lui-même. Après la faute du Vaudor, seul le Vaudouille va être consacré à la sainteté, et ce sera différé jusqu'au temps messianique, le fait que l'ensemble du peuple d'Israël reçoit son. Les 12 tribus vont s'occuper de la construction de la maison d'Israël, et que la tribu de Lévi est consacrée à la sanctification de la maison d'Israël. Alors que primitivement, le temps de la Torah, c'est que ce sont que les nations qui auraient le rôle de l'esprit, et Israël tout entier le rôle de la tribu de l'Église. C'est bien fait, c'est là. Voilà le verset, un des versets, mais celui qui concerne ce problème, qui désigne cette mise à part de la tribu de l'Église. Le Ekena, c'est à l'Église, et je destinerai, je donnerai le Lévi, mes filles, destinées, les Aaron et Bana, à Aaron et à ses fils, qui eux sont la famille de Fred, la Ravod et Mitor Bené Israël, du dedans des enfants d'Israël, la Ravod et Travodat Bené Israël, pour le service des enfants d'Israël, Boel Moed dans le temple. Boel Moed, c'est l'expression du Lévi, le tabernacle, dans le désert, c'était la préfiguration du Béthamique, à Mila. Le chater al béné Israël était expié pour les enfants d'Israël. L'élevé de béné Israël n'ayait, et il n'y aura pas de dommage dans les enfants d'Israël, pour les enfants d'Israël, de déchets de béné Israël et la rebelle, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront de la sainteté. C'est un verset assez difficile à lire en simple lecture, comme il a dit remarqué. C'est le verset qui nous donne la fonction de la tribu de Lévi dans ce nouvel événement de mise à part de la tribu de Lévi du sein même de l'ensemble du peuple d'Israël. Voici, ici, un livre très important, va mettre en évidence que dans ce verset, l'expression « Bénis Israël », les enfants d'Israël, est employée cinq fois. Alors, je vous lis d'abord Rashi. « Hamishat et Amin, Némrou, Bénis Israël, Bénis Razé » Cinq fois, les enfants d'Israël sont cités dans ce verset, le diam Sibatam, pour nous faire connaître le prix union au lieu de Dieu, l'affection que Dieu a pour eux, chez Israël, à Karotéen de Mishraïchat, que Niyam Khamishach Mishotora, puisque la mention de leur nom a été répétée cinq fois selon le nombre des cinq livres de la Torah. Et Rachid ajoute, le 4 a ici le Pérechit Rabba. Et cela, je l'ai trouvé, je l'ai vu, je l'ai appris dans le récit de Rabat. Je vais commencer par la fin du Rachid. Pourquoi dans ce cas, Rachid a tenu à citer sa source? Énormément d'enseignements du commentaire de Rachid sont des citations du récit de Rabat, ou d'autres comme le Tanchuma, le Kifre, etc. Pourquoi Rachid a tenu à nous dire ce que je vous dis là, je l'ai pris du récit de Rabat? Mais parce que, il me semble qu'on peut l'expliquer comme ça. Apparemment, cette association d'idées inversé, il y a cinq soirées que les chrétiens, les enfants d'Israël, avec le Saint-Louis de la Torah, apparaît un petit peu purement et simplement associative. C'est-à-dire, vous connaissez ce chant qu'on chante après ça, qu'est-ce qu'il y a un, qu'est-ce qu'il y a deux, les radios des arts, qu'on a là. Alors dès qu'on dit que, qu'est-ce que c'est que cinq, tout le monde pense que c'est le Saint-Louis de la Torah. Alors chaque fois qu'il y a cinq, on va dire que le Saint-Louis de la Torah, ça pouvait paraître un peu du niveau de sagesse profonde du Talmud Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Attends, 31. Alors ainsi, nous met en garde. Faites attention, c'est un enseignement important, ça je le trouvais dans le Bereshit Rabba. Je ne suis pas amusé à faire une association du mot entre cinq fois l'expression des enfants d'Israël et le Saint-Louis de la Torah. C'est bien clair? Bon. Et en fait, vous voyez, sûrement perçu déjà une contradiction apparente entre ce que dit Rashi et les versets lui-même. Les versets parlent de la mise à part de l'Ovil, auquel est déléguée la fonction de sainteté de tout Israël. Parce qu'elle est dangereuse pour tout Israël qui n'est pas encore à ce niveau, et il faut que ce soit le Lévi-Lévi qui entraîne le relais, le Lévi-Lévi-Bahel-Mégué, pour qu'il n'y ait pas de dommages aux enfants d'Israël lorsqu'ils s'approchaient de la sainteté, mais n'en étant pas encore suffisamment capables, ils pourraient en être atteints. C'était ajouté. Alors, je reprends ce point précis. Le chat du verset semble dire que les Lévi-Lévi sont mis à part des enfants d'Israël et recueillent le privilège de l'identité des enfants d'Israël. On pouvait encore aller plus loin et dire, peut-être qu'on pourrait supposer que les versets indiquent que les enfants d'Israël, les autres tribus, sont disqualifiés par rapport à la tribu de Lévi. Rashi intervient et dit non, c'est une contraire. Si on a répété cinq fois l'expression des enfants d'Israël, c'est au contraire pour mettre en évidence l'importance des enfants d'Israël. Vous sentez la contradiction? Alors il suffit de reporter, de calquer l'explication de Rashi sur le verset lui-même pour s'apercevoir que chacune des expressions de l'Israël du verset concerne un des chumashim de la Torah et nous en donne l'identité. Vous avez déjà vu cela? J'allais dire que, selon Rashi, la répétition en cinq fois correspond au Saint-Louis de la Torah, et par conséquent, si nous comprenons le contexte immédiat de chacune des expressions des enfants d'Israël, nous comprenons leur lien avec tel ou tel chumash, de Rashi, Shemot, etc. Alors je vais le faire très rapidement, parce que ça pourrait nous prendre des heures, mais très rapidement. Je reprends le verset. Et Ethena et Calvi, Netuni, Mère, Nubana, Nitor, Bene Israël. Et je donnais les Lévites à Aaron et à ses fils, du dedans des enfants d'Israël. Ceci correspond à l'île de Rashi. En effet, quel est le contenu du livre de Rashi, je l'ai indiqué tout à l'heure, du dedans de l'histoire générale de l'humanité sur lui, l'identité d'Israël est mise à part. C'est très parallèle au fait que les Lévites, à leur tour, sont mis à part du dedans de l'identité d'Israël. C'est bien clair? Et de même que nous allons apprendre que cette mise à part ne disqualifie pas les enfants, les règles des tribus, cette mise à part de l'Ovine ne disqualifie pas le reste des tribus, puisqu'au contraire, les Lévites tiennent leur dignité des enfants d'Israël, et il y a toujours l'explication Rashi en tête, de la même manière, les apprenants, c'est important de mettre en évidence, que la mise à part d'Israël ne disqualifie pas l'humanité entière, mais au contraire doit la faire rire. Je pense que c'est donc vous voyez le même mouvement du dedans de l'humanité en général, Israël est mis à part. Du dedans du peuple d'Israël, les Lévites sont mis à part. Donc c'est le même, le contenu du récit de Bereshit nous est donné par la première formule du verset, il y a cinq fois le mot les enfants d'Israël. La deuxième, ça concerne les Lévites sont autres. En vue de quoi les Lévites sont mis à part, il y a Ravodat de l'Israël de Noël. Et aucune allusion dans l'identification du livre de Shemot au fait de recevoir la Torah d'abord, mais l'allusion d'abord est au fait de construire le Beth Amigdash. Pour construire le Beth Amigdash, il faut bien recevoir la Torah. Mais l'objectif, c'est la construction du Beth Amigdash. C'est bien fait? Alors, je continue rapidement, parce qu'on a déjà cité notre sujet. Le troisième livre, c'est le livre de Vaïkra, c'est le livre qui nous donne toute la liturgie de sacrifice, c'est la troisième expression. Pour rappeler al Bene Israël et pour faire l'expiation des enfants d'Israël. Le quatrième livre nous raconte toutes les tribulations du peuple d'Israël dans les 40 ans dans le désert et toutes les catastrophes qui ont atteint à chaque mise à l'épreuve et ça correspond de l'Oyé Bahel Nogé et il n'y aura pas de catastrophe entre les deux. Deux. Le déchet de Bene Israël et la paix de sa cinquième allusion, c'est lorsqu'Israël s'approchera de la sainteté, ça veut dire Bérez Sakolé, c'est le livre de Noirine qui est donné à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. C'est bien clair? Bon. c'est à la fin de la nuit. Alors nous avons là une deuxième chose qui nous montre bien que l'intitulé est donc la définition de l'objectif. Du récit qui nous est raconté dans le livre de Schnorr revient à la première des deux formules que j'ai citées, c'est-à-dire que l'objectif de la sortie de vie, c'est d'aller construire le bête à l'univers. C'est bien fait? Bon. Alors, si on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à ce qui pense que notre formule, que l'objectif de la sortie de vie, c'est d'aller au final recevoir la Torah, et ensuite, et moi je suis comme ça bien sûr, mais c'est clair, d'aller la pratiquer n'importe où, et récupérer, ben oui, récupérer sans problème, mais ça il faut attendre le petit, pour en exiger. Qu'est-ce qui est arrivé à cette identification du judaïsme à travers l'histoire? C'est une toute autre paracha, et je pense que vous avez déjà des idées. C'est que, à force de s'habituer à une situation anormale, la loi d'inertie fait que cette situation normale finit par se faire rendre comme une situation normale. Je pense que c'est bien. Ça va, ça va jusque-là? J'ai pas voulu trancher là-dessus. La plupart des postines pensent que le Sinaï ne fait pas partie de l'Épistole. Mais il y a certains postines, sionistes, qui pensent que le Sinaï font partie de l'Épistole, par exemple Judas Lévi. Bon, en fait, c'est le, comment dire, le ridicule de dire que c'est Judas Lévi qui a raison contre les autres. C'est un problème pour lui-même. C'est pas ça le problème. C'est que même si le Sinaï fait partie de l'Épistole, la Torah vient de Jérusalem, pas du Sinaï. Le Sinaï faisant partie éventuellement de l'Épistole. C'est bien fait? C'est-à-dire la révélation. Bon, j'étais conscient, c'est pourquoi j'ai rappelé ce thème pour son importance. Donc, j'ai bien conscience que cette lecture nous dévoile quelque chose, non pas d'inattendu, non pas quelque chose de nouveau, j'espère que vous avez suivi le stade du texte et accueilli le prochain texte, hein, mais d'inhabituel. Alors, ça vaut la peine d'y réfléchir, et surtout de réfléchir à les implications que j'ai indiquées tout à l'heure. À force de s'habituer à certaines habitudes de pensée, on n'arrive plus à lire le livre dont on parle comme il est écrit. Je pense que c'est bien sûr. Je vais répéter le passage. Le Zerechao qui a mis la Tira, le Tiacha et Aram, et Aram, je tiens bien, Nerek Israël, Tarabdou, mais c'est le Tibar. Et bien, je vais en tenir compte tout à l'heure. C'est pourquoi je n'ai pas tout de suite traduit, mais je vais prendre le Tibar. Alors, reprenons maintenant notre texte de Yitro, et nous allons lire le premier verset du chapitre 19, c'est-à-dire le chapitre qui précède le récit des 10 commandements. J'espère avoir le temps, avant la fin de l'étude, de lire un plan des 10 commandements, mais je crois qu'il est important d'abord d'apprendre ou de réapprendre cela. Quelles sont les raisons immédiates qui ont fait qu'Israël devait arriver au Sinaï pour recevoir les 10 commandements? C'est bien clair? Alors prenez le chapitre 19. Nous allons lire très rapidement les premiers versets. Est-ce que tu veux, en attendant, me chercher où est le verset qu'on vient de citer, dans le texte. C'est dans le chapitre 3. Regarde, dans le chapitre 3. Voilà, Juliette, chapitre 19, à partir du verset 1. Bahod et Fasrici, le fait de Israël, Mérec Israël, au troisième mois de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, Bayom Azé, en ce jour-là, Baoum et Barsinaï sont arrivés au désert du Sinaï. Baïfrou Mirsidim, ils ont décanté le Mirsidim qui était l'étape à laquelle ils étaient arrivés. Baoum et Barsinaï sont arrivés au désert du Sinaï, Baïfrou Mirsidim, et ils ont campé dans le désert. Baïfrou Mirsidim, Israël, Mogadar. Et Israël campa là-bas, face à la montagne. En réalité, comme vous savez, comme l'a dit, chaque détail de ce texte a été étudié pour lui-même. Au moment où je le lis en diagonale, si je dis, pour arriver à notre problème. Il Moshe, Allah et l'Aïlokim, suivez bien. Et Moïse est monté vers Dieu. Israël a Vachem, Minas, le Mans, et assez Naples de la montagne pour dire le point ouvrir le guillemets. C'est quand même une petite parenthèse sur ce qui me semble très important, c'est un sujet pour lui-même. Il faut déjà être capable de monter vers Dieu et le film pour que Hachem appelle. Je reprends le verset. Vous montez à Allah et le film, alors Hachem l'appelle. Vous sentez un peu le problème que pose la différence de nom qu'emploie le verset. C'est un sujet très important pour lui-même, je vous signale en passant. Kotomar le verset à cause, ainsi tu diras à la maison de Jacob, de ta vie au milieu d'Israël, et tu expliqueras aux enfants d'Israël, verset 4, à quelle réalité ma sœur a suivi le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. C'est-à-dire, vous avez l'expérience de mon intervention, de l'intervention de la Providence dans l'histoire des hommes. Vous avez cette expérience. Ce n'est pas une idée qu'on a apprise dans un catéchisme, c'est un fait historique qui s'est passé, vous en avez expérience, vous êtes le témoin de cela. Et vous savez à quel point ceux qui n'ont pas assisté à un événement ne sont plus capables d'être témoins. Surtout s'ils ont perdu la mémoire. Vous comprenez cela. Nous sommes contemporains d'événements très graves, et déjà on s'aperçoit que très rapidement, la génération suivante ne sait même plus de quoi il s'agit, elle n'arrive plus à diagnostiquer l'importance de l'événement. Tant pour la Shoah d'un côté, que pour la Trouma de Medina d'Israël de l'autre. Un événement aussi, deux événements aussi énormes, qui arrivent après 2000 ans d'exil, et puis finalement on les cite comme quelque chose qui est devenu, je ne sais pas quoi, une référence à la péripétie de l'histoire quotidienne, alors qu'il y a une mutation d'identité radicale au niveau de ces deux événements. Et ceux qui n'ont pas été les témoins de ça sont d'une certaine manière privilégiés parce qu'ils entrent dans un monde qui vient après cette préhistoire, mais d'une autre manière, le contraire de privilégiés, défavorisés, parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience du passage. Je dis souvent, je le répète encore ce soir, d'année en année, les témoins de cette génération du passage, ceux qui ont été de l'ancienne histoire de la Galoute qui se termine à la Shoah, et ceux qui ont été de la première histoire d'Israël qui commence avec Hakamat HaMedina, qui ont vécu le passage, ont une expérience qui ne se transmet pas, sera oublié, ne pourra plus être diagnostiqué. Et c'est évidemment clair. J'en vois dans la salle qui en font partie, mais en général, la grande majorité d'entre vous est déjà de la génération des enfants par rapport à la génération dont je parle, qui est la mienne. Peut-être même des petits-enfants, etc. En tout cas, pour revenir à notre problème, c'est que le texte dit, puisque vous avez compris le sens de l'histoire, d'une histoire où Dieu se révèle, donc vous êtes privilégié parmi le peuple, c'est pour vous que cette intervention se fait, que je vous ai porté sur les ailes des aigles, je vous ai monté jusqu'à moi, je vous ai fait venir jusqu'à moi. J'ai atteint Kishma 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 Ubekoli. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, Kishma Kishma Ubekoli, et que vous observez mon alliance, vous serez pour moi la meilleure part de tout le peuple, et celui-là, je dis simultanément la mise à part et la meilleure part. Qui dit que la reste, car toute la terre est à moi. Et vous voyez, l'indication du projet universel de l'histoire d'Israël. J'ai appelé, qui lui, il m'a fait quoi, mais quant à vous, vous serez pour moi une royauté de prêtres, je vais cadeau, une nation sainte. Je reprends une étude que nous avons fait sur un texte important du Rav Harlap, l'année dernière, il y a deux ans peut-être, que j'ai signalé tout à l'heure en brièvement, il y a la deux expressions, ma mlechet kohanim et la vocation d'Israël par rapport à l'universel humain. Qu'est-ce que ça veut dire une royauté de prêtre? Ça veut dire le prêtre des autres nations. Nous avons été empêchés de cela jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps de Kohanim. C'est clair, cela? Le Golkados est une nation sainte, désignée Israël pour l'humain. Et les Advarim, un chef de la Vérité de l'Israël, voici les paroles que tu parleras aux enfants d'Israël. Donc, jusque-là, on ne connaît pas la suite, il ne s'agit pas encore du tout des 10 commandements, ni même d'une Torah de commandements. Il y a un message que Dieu charge à Moïse de présenter aux enfants d'Israël, et qui va frapper les enfants d'Israël de perplexité. Et jusque-là, il n'avait pas encore reçu de Torah. Jusque-là, leur tradition, c'était la tradition transmise par les patriarches, que l'histoire d'Israël a un sens privilégié et que ça finira par se dévoiler, que dans cette signification-là, il y a le tableau de l'exil, mais qu'il y aura des nuances. Jusque-là était la foi des Hébreux avant la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est donc clair ? Et seuls ceux qui ont été fidèles à cette foi, à cette confiance, que ces promesses de la fin de l'Égypte s'accompliraient, ont suivi Moïse parce qu'ils ont été aussi capables de diagnostiquer avec Moïse que c'était bien le temps de l'accomplissement de cette promesse. C'est bien clair ? Et Torah, il n'avait encore entendu jamais parler. C'est-à-dire que la foi d'Israël jusqu'à la sortie d'Égypte, c'était la Géoula, la fin de l'exil, la délivrance de l'exil, le retour au pays des patriarches. C'est bien clair, j'espère. Et voilà que Moïse est chargé de leur dévoiler un message auquel ils ne s'attendent pas encore. Sauf la tribu de Lévi, qui, comme nous dit Midrash, elle était au courant. Elle savait de lui. Vous savez que la tribu de Lévi, en Égypte même, était déjà à part des autres tribus. Peut-être que vous avez étudié ce Midrash-là, que la tribu de Lévi n'a pas fait partie de l'esclavage des autres tribus. C'était la tribu de Talmidei Chachamim, si vous voulez. Alors, je raccourcis beaucoup en disant ça. À part une élite du peuple, qui était dans l'intimité de cette promesse au patriarche, dans la sagesse de la foi hébraïque jusque-là, l'ensemble du peuple entend ce message de Moïse dans une certitude absolue. Est-ce que c'est suffisamment clair, hein? Parce que ça ne va pas de soi qu'à partir du moment où des promesses concernant une histoire nationale s'accomplissent, il y a la clé qui veut dire une mission de portée universelle. Il faut changer de niveau, il faut changer de régime. C'est bien clair jusque-là ? Alors regardez la suite. Vayavo Moshe, Vayavo, tiens. Vayavo Moshe, Vaïkra, l'Ibnéaham, et Moïse vient convoquer les anciens du peuple. Les anciens du peuple, qui étaient les dépositaires des traditions de la foi d'Israël en Égypte, fidélité aux prophètes, aux promesses, faites ou à vôtre. Vayaché, l'Ibnéaham, et Kolagarim, à eux. Il plaça devant eux toutes ces paroles. À ce qui va vous Hachem, que Dieu l'avait ordonné. Je sais, c'est un aspect très important. Vayaranou Kolaham, le peuple tout entier, Kolaham, a répondu, Yartar, ensemble, Vayomrou, et ils ont dit, Kolacher Liber Hachem n'a assez. Tout ce que Dieu dira, ou tout ce que Dieu a dit, ou tout ce que Dieu dit, ce mot de Liber ici, ce verbe, a les trois sens de mode verbal en même temps. Kolacher Liber Hachem peut se traduire à ces trois niveaux. Pensons-les ensemble. Non, tout ce que Dieu nous ferons. Avant de dire la suite, tout ce que Dieu nous ferons, nous avons l'habitude d'entendre cela, et on gardera cette première vérité, comme le mérite de l'acceptation de ce que Dieu demande d'Israël. C'est bien clair que ce verset sera toujours imputé en mérite à la génération de la sortie de Dieu. Moïse vient leur dire au nom de Dieu, voici quelle est votre vocation, fonction, mission, si je vous voudrais. Et qu'est-ce qu'ils répondent ? Ils répondent pas oui ou non. Ils répondent tout ce que Dieu dit, nous ferons. Alors je vais répéter cette phrase jusqu'à ce que nous passions à un deuxième sens. Et je vais donner la confirmation dans la suite du verset. Et ça veut dire, tout ce que Dieu dit, nous ferons, c'est un grand mérite. Quoique, il faut bien réfléchir. Si c'est vraiment Dieu qui demande, est-ce que c'est un mérite d'accepter ou pas ? Est-ce qu'on peut ne pas accepter ? Vous comprenez ? Mais c'est un mérite d'être celui qui accepte d'entendre ce que Dieu dit. Il faut d'abord se préparer à ça. C'est à partir du moment où on sait que Dieu qui parle, c'est que Dieu qui parle, où est le mérite d'accepter. Le mérite était de se mettre dans le cas d'avoir à être interpellé. Vous avez compris le problème. C'est ce que j'ai fait ? Ouais. Mais, je répète la phrase, tout ce que Dieu dit, nous ferons. Et ça implique pas ce que tu viens de nous dire toi, la Moïse, on n'a jamais entendu parler de ça. Et ça veut dire autrement, si Dieu veut nous dire cela, qu'il nous le dit, lui. Parce que, c'est bien clair, parce que c'est tellement différent de ce à quoi ils étaient jusqu'à présent habitués, qu'ils sont en pleine perplexité. Je vais essayer de formuler ça par un autre vocabulaire, mais dites-moi vous-même si nous avons clair ou pas. C'est-à-dire, jusque-là, il y avait une religion d'Israël qui coïncidait avec ce que nous appelons dans le terme contemporain, quelle que soit l'anatomie, le sionisme. Le sionisme, c'est quoi ? Une foi que l'exil prend fin et qu'on rentre dans le pays d'Abraham, Isaac et de Jacob. En vue de quoi ? On vit, on verra bien. Mais c'est de construire le Métamiliage. Et pour construire le Métamiliage, il faut bien une Torah, mais c'est la Torah de l'Israël. C'est pas la Torah de Jérémie. Vous avez compris le problème. Alors jusque-là, c'est ça la religion d'Israël. Et puis voilà, vous même qui dit votre adversaire, mais je pense que le plus divertit. Voilà que Moïse arrive, ce même Moïse, qui a accompli la messianité de la première phase de la religion d'Israël, celle que je viens de la décrire, ce même Moïse vient dire, ah vous savez, les ennemis sont universels à la clé, une Torah à la clé, un Nouveau Testament. Alors, le peuple dit, eh bien, si Dieu nous donne un Nouveau Testament, il vient le dire lui-même. C'est invité au mérite d'Israël. Ça veut dire que c'est un peuple qui ne se laisse pas dire n'importe quoi, même par ses propres prophètes. Je vous le trouve. Mais je ne croyais pas que c'était une boutade. Et je vous dis de faire très petit de leur mémoire, c'est à elle qui fait le mérite du peuple d'Israël. Je vous ai mis une petite parenthèse. Au moment où vous faire cela, et vous me rappellerez où je dois accrocher. Au moment de la faute du Vaudor, je dis à Moïse, je vais détruire ton peuple parce que c'est un peuple à la nuit de la vie. Je paraphrase, en vous citant le verset au même. Et Moïse répond, sauf ton peuple parce que c'est un peuple à la nuit de la vie. Que signifie ce dialogue? C'est-à-dire, dans le verset où Dieu parle, c'est un peuple qui dit non. Alors il dit non à tout, et par conséquent je détruis. J'ai besoin d'un peuple qui dit oui une fois. Et alors Moïse répond, eh bien sauve-le. Parce qu'au moins, c'est un peuple qui sait dire non à ce qui n'est pas la vérité. C'est une qualité énorme. Je vous en prie, la discussion. Mais le danger, c'est de dire non lorsqu'il ne peut pas dire oui. Mais le mérite, c'est de dire non quand il ne peut pas dire non. Et quand il faut dire non, c'est ça. Et pour ça, il faut savoir dire non. Vous voyez que c'est exactement la problématique de cette vulnérable précise de l'histoire d'Israël. Quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut dire non. Vous comprenez le problème. Je reviens donc à la question.
Dans ce cas-là, le oui passe en ma vie.
C'est quoi?
Dans ce cas-là,
c'est le début.
La capacité à dire non, quand il faut dire non, ça veut dire que même si on dit non
alors
c'est le début, le oui passe
quand même. Le oui passe quand même, grâce au
non
qui est
non.
Non, c'est exact. Non, non. Il n'a pas compris? C'est quoi? C'est la dernière chose? Voilà. Vous vous rappelez que le sens qu'on donne habituellement à l'expression le peuple à l'ennemi de l'aide, roide dans les anciennes traditions, en tchéorès, ça veut dire que le peuple juif est un peuple entêté et il refuse l'enseignement qu'on lui donne. Mais mettez ça à l'indice de l'ensemble de l'attitude dure de ce peuple par rapport à ses prophètes. C'est un argument qui a été très souvent utilisé par l'antisémitisme théologique des non-juifs contre le peuple d'Israël. Vous voyez ce que la Bible elle-même dit, c'est un peuple entêté qui dit non systématiquement. Et Moïse plaide en disant, ça c'est pour eux une qualité, c'est ce que je souhaite trop rapidement de l'expliquer. Le fait d'être capable de dire non, même quand il faudrait dire oui, ça assure au moins qu'on dira non là où il faut dire non. Qu'on est capable de dire non aux idoles. Même si on n'est pas encore capable de dire oui au vrai Dieu, au moins on est capable de dire non aux idoles. C'est un des exemples possibles. C'est vrai jusque là? Je veux. C'est vrai? Bien. Je vous rappelle que ce livre est aussi un autre sens. Je vous donne une petite analyse. J'ai connu beaucoup d'intellectuels juifs contemporains, en France en particulier, qui sont complètement athées au nom du judaïsme. Vous savez, ça existe. C'est bizarre, mais c'est ça le juif. Et alors, à la suite d'une longue discussion avec un d'entre eux, c'est un grand philosophe contemporain, j'ai fini par comprendre la position que j'essaie de vous résumer en deux phrases. Il vit dans le milieu chrétien. Il baigne dans la culture de l'Europe, de l'Occident, c'est une culture chrétienne. Que, ne connaissant pas l'hébreu, sans parler de l'araméen, sans parler du reste, ne connaissant pas leur source d'identité propre, finalement, le fait d'être croyant s'exprime pour eux dans des catégories chrétiennes. Et le raisonnement est le suivant. Si pour être, si être croyant c'est ça, je préfère être athée. Vous avez compris? C'est-à-dire, on ne peut pas, bien sûr, c'est un premier stade très inférieur. C'est le stade d'Abraham disant non aux idoles avant de recevoir la révélation de Jésus. Et on ne peut pas ne pas impliquer comme mérite à ce peuple d'être capable de cela. Le préférant être athée, pour ne pas être chrétien. Bon, il y a une faille énorme là-dedans, et qu'il faudrait aussi être juif. C'est dans ce que c'était. Bon, mais simplement, je dis cela comme illustration de ce problème. J'ai un élève aussi, mais qui va se m'édouard de Yéhoudim, c'est l'amdou, tu vois. Il y a d'autres aides de l'Islam. Mais je ne parle de juste assimilé. Je referme la parenthèse, c'est une illustration en passant de cette dialectique de Amtosoroès. Je n'ai ni de terminer le verset. Et ensuite, je pose la question, nous devons voir immédiatement que le contexte du verset s'exprime dans cette manière de lire que nous venons d'avoir, ce que Dieu dira. Nous ferons. Nous terminons la lecture et ensuite, j'espère que ce sera plus clair. Alors, jusqu'à la fin du verset 8, va y acheter Moshe et Dieu Aram et la chaîne. Et Dieu ramena, rapporta, et Moïse rapporta les paroles du peuple à Dieu. Et voilà le verset important, verset 9. Va y omer à ses noms. Et Dieu dit à Moïse, Rime, voici, Anochi ba elecha, je viens vers toi, de Av et Anan, dans le nuage de la nuée, dans l'opacité du nuage, parce que sans cet écran, la lumière, dont ils ne sont pas encore capables de recevoir les brûlés, donc je vais les protéger par un nuage. Vous comprenez l'idée ? Baravou Ishma Raham de Gaberi Imar, afin que le peuple entende que je te parle, m'entende te parler. Le Gambecha Yanini Leolam, et que même en toi, il y ait foi à jamais. Vous voyez, c'est assez très clair. C'est-à-dire que Dieu a très bien compris ce que le peuple voulait dire. Le peuple voulait dire, eh bien, nous voulons que Dieu lui-même le dise. Qu'est-ce que Dieu répond à Moïse répond à la réponse du peuple. Transmise par Moïse, il m'a dit qu'il en est ainsi. Je vais moi-même me révéler à eux en les protégeant. C'est-à-dire que ce point, de quelle sorte qu'ils m'entendent te parler, et en toi aussi, ils auront foi. Ça veut dire jusque-là, ils n'ont pas foi en lui. C'est mon père. Donc, je reprends l'expression précédente. Lorsque le peuple a dit ce que Dieu dira, nous ferons, ça voulait dire on est prêt à ce que Dieu dit, le faire. Mais qu'il le dise, lui, c'est impliqué. Et pas ce que tu nous dis là, Moïse, ça nous apparaît comme trop nouveau. Est-ce que c'est vrai que Dieu t'a dit une chose pareille? Vous voyez, c'est le problème? Bon. Et alors là, nous avons. Une fin de verset du verset 9, va y a Dieu de Moshe livré à Aram et la chaîne, et Moïse expliqua les paroles du peuple à Dieu. Là, je vous résume très brièvement le Midrashim, que cite en partie Rashi d'ailleurs, et ici Moïse plaide pour le peuple. Parce que Moïse avait expliqué à Dieu les paroles du peuple. On a bien vu qu'il a très bien compris, il fait le humour énorme, je dis là, mais il a compris. Ça veut dire que Moïse a voulu plaider. Ce n'est pas qu'ils m'ont refusé, ils préfèrent s'entendre à toi. J'ai compris que je les voyais. Et le Midrash donne comme formule, retenez-nous l'Iron de ta mère. Nous voulons voir le roi. Et jusqu'à présent, nous n'avons entendu qu'un envoyé du roi. Alors si déjà on est demandé en mariage, on veut voir le chantier. C'est un autre Midrash. Vous avez compris le problème ? Ça, c'est le plaidoyer de Moïse. C'est pas qu'ils m'ont refusé à moi. Non, mais ils te préfèrent à toi. C'est très important de comprendre. Comment Moïse plaide pour Israël, mais je reviens au centre du problème. Il est évident, à partir de maintenant, que la révélation du Sinaï avait pour cause immédiate la difficulté pour Israël sortir de l'Égypte de jouer déjà le rôle d'Israël. Et que lui transmet Moïse dans les deux versets précédents dont je vous donne la référence. Le verset 5-6, le verset 5 et 6 du chapitre 19. C'est parce que le peuple n'est pas encore préparé à ce que je mets entre guillemets de nouveau, Nouveau Testament, Jésus, après Jésus qui fait le mot, qu'il a été nécessaire que Dieu descende sur la montagne du Sinaï, protégeant le peuple par un nuage, pour que le peuple écoute que c'est vraiment Dieu qui parle à Moïse et puisse avoir foi en Moïse. Dans cette chose nouvelle pour eux qu'il vient leur transmettre. Que c'est pas seulement la sortie de vie, mais Israël implique une mission de la mère de Kohanim de Gaïkadot, c'est-à-dire une Torah. Ça va bien jusque-là ? Alors je dis, Ancien Testament, Nouveau Testament, on ne peut pas s'impressionner. Dans l'ancien français, ce mot de testament avait le sens de témoignage. Ce n'est que par exemple, le verbe tester, est resté encore dans le langage juridique. Hein. Ce n'est que dans le français assez récent que ça veut dire un testament de quelqu'un qui va mourir et laisser un héritage à quelqu'un d'autre. C'est peut-être dans ce sens-là que les chrétiens l'ont utilisé d'ailleurs, mais enfin, ce n'était pas étymologique. Hein. Bon, je pense que c'est clair. Alors, j'ai simplement utilisé cette image verbale. Voilà donc que nous avons ici le dévoilement de quelque chose d'inattendu. Il y a une cause immédiate du Mahamad Arsinaï, de ce qui s'est passé au Sinaï dans la révélation des 10 commandements, c'est le fait d'habiliter cette deuxième mission de Moïse qui se dévoile à Israël. La première mission de Moïse, c'était de faire sortir d'Égypte. Et ça a été très difficile, vous vous rappelez de ça. Et en fin de compte, ce n'est qu'après le passage de la mer Rouge, qu'on a lu dans la semaine dernière, que le verset dit « Vayamim Bachel Oub Moshe Avde » qu'en fin de compte, ce peuple sorti de l'Égypte a fini par avoir foi en Dieu et à Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte. Vous rappelez, dans la première étape, on a discuté Moïse sur l'objet même de sa première mission, le temps de mettre fin, c'est le temps de mettre fin à l'Égypte. Vous vous rappelez de ça? Et voilà que même Moïse va dévoiler une deuxième mission. Indépendamment de la fin de l'Égypte, il y a la Torah. Et alors, ça, on n'avait pas entendu parler de ça. C'est bien clair. Et c'est pourquoi il a fallu que Dieu se révèle, pas seulement pour donner la Torah à Israël. Donner la Torah à Israël, c'est Moïse qui va la donner. Parce qu'Israël n'est pas encore capable de l'entendre de Dieu lui-même. La preuve, c'est que vous avez un texte que vous connaissez certainement d'autre part, que lorsque Dieu commence à parler, le peuple intervient et dit à Moïse, si nous allons continuer ensemble, nous allons mourir. Alors, parle-toi et dis-nous ce que Dieu t'a dit, ça veut dire l'expérience à Moïse. Vous vous rappelez de ce texte? Le peuple était affolé de ce qui se passe, mais alors il demande à Moïse, eh bien ça va, on sait, tu as raison, maintenant parle-toi. C'est pourquoi la tradition dit que le peuple a entendu les deux premiers commandements de la bouche même de Dieu, et que les autres, il les a entendus de Moïse lui-même. Je vous signale un enseignement à ce sujet, sur ce point précis, on a mis ça en évidence de la manière suivante, c'est vrai qu'il y a 613 commandements dans la Torah.
Et la valeur numérique du mot de Torah, ça fait quoi? 611. Si vous voulez que vous avez directement, ça fait 613. Vous avez fait la.
C'est donc la première chose importante qui se met en évidence. Je reviens très brièvement sur cette analyse. Moïse est d'abord chargé de transmettre à Israël toute la Torah en deux versets. Vous avez eu l'expérience de l'histoire. Vous serez pour moi le peuple des prêtres. Alors le peuple demande que ça soit légitimisé par Dieu,
alors il y a eu la révélation. Encore une fois, l'objet de la révélation en Sinaï, c'était d'habiliter Moïse, et que Moïse qui donne la terre. C'est vrai que avez-vous des questions là-dessus? Alors, bonjour,
c'est là, merci à l'enseignement, mais
c'est des questions imprudentes. D'habitude, je réponds comme ça, il n'y a pas encore de soucis. Je vais l'écrire, je vais m'envoyer. C'est très clair. Le verset de Shema Israël, qui a posé la question, c'est la fin de commentaire. Le verset de Shema Israël implique que tel qu'on s'adresse à Israël pour lui dire à son inconnu, au Père, à ce que notre Dieu, c'est le même. C'est vrai, on l'a reçu. Historiquement, c'est bien Moïse qui s'adresse à Israël pour lui dire. Dans le livre de Jean-Louis, Shema Israël, écoute Israël, en garde, entend Israël, Hachem et le Kémé, Hachem, c'est notre Dieu, à toi Israël et à mon Moïse, Echad, c'est le même.
C'est ça?
Regardez comment continue le verset du Shema Israël.